sinon les prêtres vont dire tout dans l'église et les fidèles vont regarder comme ça, mais le prêtre il se débrouille bien. Et le prêtre fait son office à lui, mais il ne fait pas l'office de l'église. C'est comme au spectacle, vous savez, quand on va au théâtre, mais ils savent bien ce qu'ils doivent faire, les acteurs. Voilà, parce que c'est leur métier. Mais, chose très intéressante, édificatrice, si je peux dire aujourd'hui, c'est que les acteurs parfois se mêlent avec les spectateurs. Je ne sais pas si vous avez vu des représentations comme ça. Et d'un coup, le spectateur d'à côté de toi, il commence à parler, il commence à bouger et tout ça, et tu dis, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Mais en fait, il fait partie d'eux. Et donc, imaginez maintenant la vie de l'Église. Imaginez une sorte de stadion, un stade, stade de France, je ne sais pas. Voilà. Il y a les gens qui courent, après, voilà, parce qu'ils courent. Ils font du sport. Il y a énormément de gens qui regardent les applaudissements, voilà, les encouragements et tout ça. Mais en réalité, il y a peu de personnes, il y a peu de personnes qui se permettent véritablement d'agir. C'est-à-dire, c'est que les gens qui sont les sportifs, si on peut dire. Bien sûr, on imagine bien que les spectateurs, s'ils vont regarder un match de foot, quand même, ils sont passionnés par le même sport. On imagine bien que de temps en temps, ils courent eux aussi. Donc, revenons à notre liturgie. Pourquoi je parle du sport? Mais déjà parce que, si vous voulez, pour nous en tant que chrétiens, le mot askésis, qui a donné ascèse, effort spirituel, reprend, si vous voulez, un terme très ancien qui désignait ceux qui faisaient du sport, voilà, pour se préparer pour les combats. Sauf que chez nous, c'est les combats spirituels. Et donc, nous sommes en plein combat. Et donc, dans l'Église, on se prépare pour le combat. Ce n'est pas de la guerre, si vous voulez, dans le sens classique du terme. C'est la guerre. Nous sommes un peu les gardiens, pas de la paix, mais d'une certaine façon, les gardiens de cette paix que Dieu veut donner à ce monde. Et donc pour cela, il faut se battre avec les mauvaises choses qui interviennent, qui empêchent cette paix s'installer sur la terre. Et ça commence d'abord dans nos cœurs. Parce que si on n'est pas dans la paix dans nos cœurs, comment faire de la paix autour de nous? Et le saint Séraphin de Sarov, en fait, il dit une proposition qui est extraordinaire pour l'homme d'aujourd'hui. Il dit, trouve ta paix et des milliers autour de toi vont la trouver également. Donc, vous voyez qu'on doit se concentrer sur son cœur. D'après les paroles du Seigneur, le royaume de Dieu resplendit, si vous voulez, se développe, s'installe dans ton cœur, dans son cœur. Ok? Et donc, pour revenir, nous sommes dans l'Église. L'Église, ça veut dire communauté, ça veut dire participation. C'est pour cela que je me suis permis de vous dire, si je dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si vous ne me dites pas Amen, je ne peux pas continuer. Parce que c'est avec votre Amen que les choses se déroulent et se passent. Vous comprenez? Et c'est très important dans le fonctionnement même de l'Église, si vous voulez. Tout le temps, nous avons pendant l'office des prions le Seigneur et le peuple répond Kyrie eleison, ou Seigneur, aie pitié de nous, Domine miluiește. Donc, c'est la réponse du peuple de Dieu à l'invitation, si je peux dire, du prêtre, du membre de clergé. Donc, il n'y a pas d'église sans prêtre, sans évêque, sans les autres, il n'y a pas d'église sans des fidèles. Donc, chacun d'entre nous a son rôle bien précis. Qu'on se rend compte ou pas. Chacun d'entre nous est très important. Par exemple, si on considère que telle personne n'est pas si importante que le prêtre, parce que sans le prêtre, on ne peut pas faire l'office. Mais oui et non, parce qu'en fait, nous sommes comme les membres d'un même corps. si on dispense de cette main, parce que vous savez, on a une autre encore qui peut travailler, mais écoutez, la souffrance qu'on provoque dans le corps entier est insupportable. Donc le Seigneur lui-même, si vous regardez le corps humain, a pensé à nous offrir des possibilités complémentaires, si vous voulez, de pouvoir faire tout ce qu'on doit faire. Et donc il y a des membres avec une utilité, si vous voulez, pareille ou semblante, voilà, similaire, mais on a besoin de tout. On a besoin de tout ce que nous sommes. Donc l'Église, dont le Seigneur, a besoin de tous ses membres. Et les membres, comment ils peuvent faire partir de l'Église? Mais en intervenant, en agissant, en menant leur vie dans le Seigneur. Et maintenant, j'arrive à... Ça ne me dérange pas, ne vous inquiétez pas. Oh. Chacun peut crier ce qu'il veut. Moi, ceux qui peuvent écouter, ils écoutent. Vous comprenez? Ceux qui ne peuvent pas suivre, ils ne suivent pas. C'est tout. Dans l'Église, on fonctionne comme ça depuis 2000 ans. Donc, aucun souci. Ceux qui peuvent entendre la voix de Dieu dans leur cœur, ceux qui ont des oreilles à écouter ou à écouter et des yeux pour voir, dit le Seigneur lui-même, qu'ils entendent et qu'ils écoutent, c'est tout. Ceux qui ne peuvent pas, ne le font pas. Donc on ne va pas se casser la tête, on ne va pas leur reprocher ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ce qu'on peut se reprocher à nous-mêmes, c'est notre incapacité spirituelle de pouvoir se concentrer sur le Christ de telle façon que les autres sont véritablement cette présence, d'une manière palpable. Ça, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas à eux de reprocher, c'est à nous de reprocher. Voilà, donc, on revient chez nous. Ok, donc, l'Évangile d'aujourd'hui nous parle. Si elle nous parle, à mon avis, elle nous parle. Devant l'Évangile d'aujourd'hui, on est tous condamnés. Il ne faut pas se positionner sur une position à l'abri de l'Évangile d'aujourd'hui, parce que si vous regardez combien de fois vous avez visité les gens dans les prisons, levez les doigts, s'il vous plaît, si vous avez visité une seule personne dans les prisons. Donc l'Évangile d'aujourd'hui, pour vous, ça vous met dans une certaine tension, pour ne pas dire crise. Moi, par hasard, que j'ai visité, mais ce n'est pas nécessairement en tant que prêtre que j'ai visité. Donc, je suis dans la même situation que vous. Que, bon, dans cette visite, d'une certaine façon, j'étais aussi le prêtre. Bon, c'est très peu par rapport à ce que je pouvais faire. Donc, par rapport aux gens qu'on visite dans les prisons, on n'a pas commencé notre travail. Combien de, est-ce qu'on a donné de quoi manger à quelqu'un qui était dans le besoin? Levez les mains si vous avez fait ça. Ok. Quelqu'un qui était assoiffé, si vous lui avez donné quelque chose? Ok. Donc, pourquoi nous faisons cet exercice-là? Parce que c'est très important. Si on ne fait pas ce genre d'exercice, la parole du Seigneur passe à côté de nous. C'est-à-dire, ça ne concerne pas notre personne. Mais il nous dit extrêmement, d'une manière extrêmement précise, faites cela. Ok? Faites cela. Est-ce qu'on le fait ou pas? Si on ne le fait pas, comment se remplir du Seigneur si vraiment on ne fait pas les faits qu'il nous demande? Ce n'est pas des choses optionnelles, comment on peut le savoir? Mais regardez ce qui se passe avec ceux qui ne le font pas. Je ne vais pas relire, refaire la lecture. Mais ils seront du côté mauvais, si je peux dire. Ils seront du côté mauvais, pourquoi? Parce qu'ils sont déjà du côté mauvais d'ici. Parce qu'à partir d'ici, on n'est pas nécessairement à la suite de notre Seigneur. À travers nos actions, mes chers amis dans le Seigneur, c'est-à-dire, on peut dire énormément de choses, très belles. Moi, je peux vous décrire énormément de choses. Le royaume de Dieu est tellement beau qu'on peut parler toute la journée du royaume de Dieu. Sauf que ce qui nous intéresse, ce qui nous importe, c'est de voir de quelle façon on peut s'approcher du royaume de Dieu à partir d'aujourd'hui et de maintenant. À partir de cette liturgie, par exemple. Et donc, le Seigneur nous adresse une parole. Aidez les démunis. Faisons-le. Tout simplement, faisons-le. Donc, imaginez combien de fois on a devant nous des gens qui sont dans le besoin. Vous allez me dire, mais nous sommes aussi dans le besoin. Mais bien sûr, vous savez pourquoi nous sommes dans le besoin? Parce que nous n'exerçons pas complètement, pas complètement, comment dire, pas suffisamment, si vous voulez, ce don de Dieu de donner à l'autre. Celui qui donne, il reçoit. Celui qui donne davantage, il reçoit encore. Donc, quand on ressent nos besoins, sachez tout simplement que nous sommes dans une logique de sorte d'équilibre humain, parfois, pas spirituel, où on dit, bon, il ne faut pas trop donner parce qu'après, on n'a plus nous-mêmes. Et en fait, dans la logique du Seigneur, je ne dis pas qu'il faut avoir, il faut pas avoir un discernement. On ne donne pas n'importe comment, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de situations où vraiment les gens ont besoin de quelque chose de notre part. Père Cléopa en Roumanie, il disait, donnons au moins, je ne sais pas, un fruit ou quelque chose de petit, mais quand même qu'on donne quelque chose, que les gens puissent avoir quelque chose de notre part. L'expérience avec les Roumains qui font la manche sur les rues. Tu donnes quelque chose. Ils disent, mais est-ce que vous n'avez pas, par contre, je ne sais pas quelle chose? Tu essaies de donner aussi ça, mais ils demandent autre chose. Et comme ça, on continue, et ça ne s'arrête pas. Et on risque de juger les personnes en disant, mais vous arrêtez jamais. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Et on ne donne plus. Vous savez? J'ai dû rencontrer quelqu'un, il y a 2-3 semaines, pas plus, qui s'est spécialisé dans la région parisienne de visiter ce qu'on appelle les plats. Plats, ça veut dire les camps, le campement où se trouvent surtout les Roms roumains qui n'ont pas d'abri ici en France, qui préfèrent voilà, vivre l'hiver à l'extérieur comme ça, en se chauffant avec du bois qu'ils trouvent sur la rue et tout ça. Bon, il s'agit de milliers de personnes. Déjà, première question, qui s'occupe avec eux? Parce que nous, les prêtres comme ça, nous sommes tellement investis dans nos paroisses qu'on n'a plus le temps de s'occuper de telle ou telle personne, dans notre tête. Et eux, ils appartiennent à qui? Et après, nous n'avons pas le temps d'aller pour les bénédictions de la maison. C'est trop, d'avoir, je ne sais pas, une centaine de familles, de visiter toutes les maisons tout le mois de janvier. Moi, je n'ai pas fini pour l'instant, donc on est à la moitié de février, mais il reste encore quelques familles qui m'ont invité, peut-être j'arrive. Donc, on peut dire, mais en même temps, il faut être dans sa famille et tout ça. Mais justement, par ce genre de réflexion comme ça, on risque d'oublier la parole du Seigneur d'aujourd'hui et de mettre notre propre parole en la considérant plus puissante que la sienne. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut essayer. Il faut essayer, tout court. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que les gens dans cette ville se rendent compte quand on sort sur la rue que lui, il se dit un chrétien? Je peux le découvrir, je remarque son visage, je remarque sa façon de bouger, d'être, et voilà tout ça. Je me rends compte, il y a quelque chose, il y a une grâce, je ne sais pas comment le dire. Je me rends compte, lui, il est un chrétien. Parce que franchement, si vous regardez bien les gens, vous allez pouvoir découvrir vous seul quand quelqu'un est baptisé ou pas. Vous allez pouvoir découvrir vous seul. Parce que celui qui est habitué avec le Seigneur peut reconnaître d'une certaine façon, plus ou moins, il peut se tromper bien sûr, mais en général, on ne risque pas trop de se tromper. On peut voir quand quelqu'un est baptisé ou pas. Son visage, son regard, il y a quelque chose où on reconnaît le Seigneur qui est dans nos cœurs. Voilà. Et donc, le Seigneur disait que vos faits soient de telle façon que les gens, même en croyant, rendent gloire à Dieu, grâce à Dieu, pour le bien que vous apportez dans le monde. Et on regarde aujourd'hui ce qui se passe. Mais les chrétiens se battent les uns avec les autres d'une façon peut-être meilleure par rapport à d'autres religions. Les chrétiens ne s'intéressent pas nécessairement de la douleur de ce monde parce qu'ils sont trop préoccupés, je ne sais pas par quoi. Et tout ça, on peut continuer. Et donc, nous sommes où par rapport à l'appel du Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je finis avec cela. L'évangile est très clair. Il faut commencer à aider ceux qui sont dans le besoin. C'est sûr. On ne peut pas passer à côté. Si on ne fait pas l'action, la grâce ne s'installe pas en nous. Le Seigneur se cache derrière ses commandements. Donc, si le Seigneur me dit, tu fais ça et tu seras mon fils. Nous chantons les béatitudes. Heureux seront les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Ok, donc attention, vision de Dieu. Vision de Dieu. Donc, nous rencontrons Dieu. Qui? Ceux qui auront les cœurs purs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais purifier son cœur. Justement, purifier son cœur. Comment on peut purifier son cœur? Déjà, selon notre conscience, de rejeter le mal et de faire le bien. Et si on est à un certain niveau spirituel, on va approfondir petit à petit les choses. On va se rendre compte de plus en plus où se trouve le bien, où se trouve le mal. Confessons-nous également, parce que dans la confession, on détruit, si vous voulez, l'effet éternel. Elle ne me dérange pas. Je ne l'entends pas. Franchement, je ne l'entends pas. On détruit l'effet éternel de nos péchés. Donc, d'un coup, on reçoit quelque chose de cette vie qui bouscule, si vous voulez, notre vie actuelle et notre éternité. Donc, il faut le faire. Et on découvre petit à petit, en fait, pas moins que la vie de l'Église. C'est tout, en fait, dans sa simplicité et en même temps dans son mystère. Dans son mystère. Et donc, moi, je ne cesse pas à être pas étonné, bouleversé par le fait qu'à travers des mains de pécheurs comme les miennes, Dieu donne le salut aux gens. Je confesse au moins de temps en temps les gens. Et je vois les gens dans leur résurrection. C'est-à-dire, ils ressuscitent véritablement. Ils se trouvent dans un état où on ne sait pas exactement s'il est mort ou encore vivant. Et petit à petit, mais ils ressuscitent. Après, ils commencent à avoir la vie. On sent que c'est vivant en eux. De plus en plus, je parle. L'essence est le plus vivant, si vous voulez, d'entre nous tous. Et donc, quand tu vois ce qui se passe à travers tes pauvres mains, ça te comble. Tu comprends presque rien parce que tu ne peux pas maîtriser quoi que ce soit. Tu uniquement te fais l'accueil de celui que Dieu t'a envoyé. T'a envoyé où? Il t'a envoyé chez lui, de certaine façon. Donc, il l'appelle à venir. C'est le Seigneur qui agit à travers nos compétences, entre guillemets. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui est un secret. Ça, je vous le dis. C'est-à-dire, combien de gens cherchent dans ce monde de rencontrer Dieu à travers tous les moyens possibles, y compris celles très philosophiques et métaphysiques et d'autres. Et le Seigneur se cache pour les pauvres dans l'esprit, dans des petites choses à faire. Si tu aides celui qui est dans le besoin, tu as fait un pas vers le Seigneur. Ce n'est pas uniquement pour les pauvres en esprit, dans notre sens que voilà, ils ne sont pas très bien garnis au niveau de, voilà, de leur intelligence. Ce n'est pas ça qui veut dire le Seigneur. C'est surtout celui qui n'a pas de prétention comme quoi il est bien et les autres ne sont pas pareils. C'est celui qui se rend compte que s'il a rencontré un être humain, c'est un être unique qui ne va pas se répéter dans l'histoire de l'humanité et que cette rencontre est formidable, est unique et que nous sommes tous des êtres uniques. Et c'est terrible de se rendre compte que vous tous ici, vous cherchez votre salut en la compagnie, si vous voulez, des autres et que chacun d'entre vous peut aider l'autre justement par sa présence. Par sa présence dans le Seigneur, qui peut travailler dans l'autre également. Et donc le secret, c'est qu'à travers des petites choses comme ça, donner un tout petit peu à manger à quelqu'un, à boire, le reposer en quelque sorte, lui apporter un peu de paix dans son cœur et tout ça, Dieu commence à s'installer dès maintenant et d'ici, dans nos cœurs, dans notre être, dans nos corps également. Et nous, on commence à sentir dans la profondeur de notre cœur qu'il est bien présent. C'est-à-dire, ce n'est pas une illusion dans le sens où peut-être il va s'occuper de moi après mon départ de cette vie. En faisant, en accomplissant les commandements entre guillemets du Seigneur, hein, je dis commandements entre guillemets parce qu'à la fois c'est commandement, mais c'est des appels à la vie en fait. Si quelqu'un m'appelle à la vie, bon, ce n'est pas un commandement, c'est plus que ça. Donc, en faisant les commandements du Seigneur, en accomplissant les commandements du Seigneur, lui, il se révèle dans mon cœur à partir de maintenant et d'ici. Et ça bouleverse tout. Parce que d'un coup, si je sens sa présence, je suis dans le Seigneur. Le monde, apparemment, il est le même, mais moi, mon regard a changé. Je peux voir son action, sa présence dans des choses qui m'étaient opaques avant. comme disent les théologiens, le monde devient transparent vers Dieu, c'est-à-dire je peux percer à travers le monde pour sentir que Dieu est bien présent. Et d'un coup, les mêmes personnes qui menaient une vie confortable et tranquille sans le Seigneur, je dis confortable et tranquille entre guillemets parce que cette tranquillité ne peut pas durer une éternité, se rend compte qu'en fait la vraie vie, les vraies choses qui comptent pour notre vie se trouvent cachées à travers notre façon de manifester l'humain que nous portons, d'être des êtres humains des réels, si je peux dire. Parce que l'accomplissement de l'homme, c'est aussi l'accomplissement que le Seigneur nous met devant nous. Nous serons plus humains qu'avant. Je m'arrête là parce que sinon je ferai pleurer tous les enfants ici et après je continue avec les adultes. Je ne joue pas du théâtre, tout ce que je dis c'est très sérieux, c'est très sérieux. Mais en même temps, il faut savoir sourire, sourire. Rire c'est déjà trop peut-être pour une homélie, mais sourire. Survivre, pas vivre, survivre. Parce que, d'une certaine façon, la vie que le Seigneur nous donne, c'est une survie. Déjà parce qu'on échappe à énormément de choses, mais c'est survie dans le sens que c'est une vie qui fait agir quelque chose qui dépasse en réalité les possibilités naturelles de la vie humaine. Voilà, c'est une vie autre par rapport à ce qu'on peut connaître avec nos compétences naturelles. Merci pour votre patience. Un seul aspect que je voudrais vous confier, quand vous dites notre Père est le symbole de la foi, dites-le d'une manière moins rapide, un tout petit peu, une idée moins rapide. Je vous explique pourquoi. Pour qu'on puisse donner à tout le monde dans l'église la possibilité de le dire avec nous. Vous savez, j'étais souvent à la montagne. Et on faisait des groupes comme ça quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, disons. Et donc, dans le groupe, celui qui marchait le plus lentement, si vous voulez, on le plaçait le premier. Parce que si on le laissait derrière, c'était perdu. On ne pouvait plus l'avoir dans notre groupe, il restait sur la montagne. Et personne n'est resté. Pour l'instant, on est tous sauvés. Donc, je vous dis, c'est le même principe. Donnons à tous la possibilité. J'aime beaucoup le rite liturgique de cette paroisse, ça je peux le dire. Je l'apprécie beaucoup parce que dans ma paroisse, parfois on traîne. On traîne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner. Donc, c'est très bien qu'on rite, mais je dis uniquement pour le symbole. Bon, vous discutez avec votre père spirituel, le père Roger, mais à mon avis, une petite idée, voilà, moins vite, pour qu'on puisse véritablement le dire. Sinon, je serai obligé, quand je viendrai peut-être une autre fois, d'apprendre entre-temps comment le dire en toute vitesse. On n'est pas dans le TGV, on est dans un train classique où tout le monde doit suivre. Sinon, merci à tous pour votre investissement dans une liturgie. Ce n'est pas uniquement un programme de dimanche quiconque, mais c'est vraiment des moments où on doit et on peut sentir quelque chose qui ne vient pas nécessairement de ce monde et qui nous donne envie d'approfondir. C'est un peu ça la liturgie. C'est un endroit, pas uniquement un endroit, c'est aussi un endroit parce que c'est les icônes, le contexte, si vous voulez. Mais aussi, c'est un milieu, si vous voulez, un milieu humain. C'est un espace où on peut faire l'expérience des choses qui ne viennent pas de ce monde. Et dans la mesure où on réussit à faire ce genre de laboratoire divin, divino-humain, si on peut dire, voilà, d'un coup, on peut profiter de cette présence et se remplir de la grâce de Dieu. Je ne peux pas éviter le terme parce que nous disons dans la liturgie, nous proclamons ton amour, nous proclamons la venue de ta grâce. Donc si je dis dans la liturgie que je témoigne la grâce de Dieu, je ne vais pas pouvoir dire autre chose en dehors de la liturgie. On cherche la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, on comprend tout. Sans la grâce de Dieu, on est vraiment des démunis. Il faut qu'on soit aidé par ceux qui ont déjà la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, tout est possible. Tout est possible parce que c'est notre fonctionnement en Dieu qui, voilà, qui a tout ce qu'il faut. Je ne sais pas quelle est l'habitude de la maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous embrassez les icônes? Vous faites une onction à la fin? Ok. Comme vous avez déjà l'habitude, venez pour l'onction à la fin. J'ai compris que vous allez... Bon, il y aura une petite agape. Je ne sais pas si Père Roger, normalement, il fait la bénédiction comme je le fais tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok. Donc, après, tout le monde... J'imagine bien que tout le monde est invité là-bas. Sinon, je l'invite. J'invite tout le monde parce que si on apprend, si on vient ici avec des produits, on mange uniquement nous-mêmes, on ne donne pas aux autres, ça, ce n'est pas l'Église, c'est autre chose. Ok, donc tout le monde est invité à la campagne.